Du Voltaire des lettres philosophiques au Stendhal de Shakespeare et Racine, de Balzac, lecteur de Walter Scott, à l'histoire de la littérature anglaise de Taine, des projets de voyage à Londres de Des Esseintes au snobisme d'Odette, l'anglomanie a été l'une des principales constantes de la littérature française. On n'est pas complètement un écrivain français si on n'a pas lu Dickens, Stevenson et Emily Brontë. Il n'y avait pas de jalousie particulière entre écrivains français et écrivains anglais, mais une sorte d'émulation bienveillante et multiséculaire. Claudel traduisait Chesterton pour la NRF, Gide traduisait Typhon de Conrad, Larbeau coordonnait la traduction d'Ulysse. Mais l'hégémonie contemporaine des grands récits anglo-saxons d'imagination a cassé quelque chose. L'anglomanie, depuis qu'elle est devenue une maladie populaire, avec les romans de Roald Dahl et le triomphe d'Harry Potter, met les écrivains français mal à l'aise. La saine émulation, le côté fair-play de la chose, sur des thèmes identiques, le conte des deux cités de Dickens est mieux tenu que 93 d'Hugo, mais la recherche du temps perdu, comme récit de formation d'un écrivain, dépasse David Copperfield en ampleur. Tout cela a pris la forme d'une compétition, compétition que les écrivains français n'ont plus jamais remportée. Mauvais perdant, on se réjouit aigrement que Les Rois Maudits de Maurice Druon ait été l'une des sources de Game of Thrones. Et comme on a longtemps cru que les aventures du Club des Cinq se déroulaient en Bretagne armoricaine et non en Cornouailles, on a finalement décidé de situer la forêt de Brocéliande au sud de Rennes, dans la forêt de Pimpon. Décision qui a eu le mérite de transformer les officiers formés à l'école militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan en successeurs directs des chevaliers de la Table Ronde. Dans un entretien de 1986, Julien Gracq évoque avec un certain sens de l'euphémisme, il veut parler des best-sellers, ces livres que la librairie a fait entrer dans la littérature. Et très vite, il en vient à Tolkien. La dernière très forte impression de lecture que j'ai ressentie m'a été causée il y a 7 ou 8 ans par Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, où la vertu romanesque ressurgit intacte et neuve dans un domaine complètement inattendu. La domination culturelle des anglo-saxons sur les terres de l'imaginaire repose probablement sur ce livre, paru entre 54 et 55, et traduit en français une bonne quinzaine d'années plus tard. Jusque-là, Verne et Wells s'équilibraient à peu près, tout comme Conan Doyle et Maurice Leblanc, Simenon et Agatha Christie, la comtesse de Ségur et Enid Blyton. Quelque chose se casse ici. Il semble incontestable qu'à partir du Seigneur des Anneaux, les anglo-saxons prennent le leadership de cette littérature qu'on appellera bientôt de l'imaginaire. Ni Barjavel ni Pierre Boulle ne paraissent tout à fait au niveau. Le Petit Prince est un peu maigre, Fantomas se ridiculise au cinéma. Mais l'événement Seigneur des Anneaux est surtout littéraire. L'un des plus amples projets romanesques du XXe siècle, après l'aventure des avant-gardes des livres mondes et des palimpsestes homériques, se rattachera ainsi au champ du livre pour enfants, au monde des contes de fées, celui de la fantaisie et de l'imaginaire pur. Le livre de Tolkien s'imposera très vite comme un classique absolu, un classique non pas de l'histoire littéraire, mais de l'histoire de l'humanité tout court. Il est lu depuis plus d'un demi-siècle avec une ferveur biblique. Le Seigneur des Anneaux est un événement aussi considérable que la formalisation au XIIe siècle du roman de chevalerie par Chrétien de Troyes. Julien Gracq avait justement repris ce vieux fond arthurien en 1948 dans l'unique pièce qu'il a écrit, Le Roi Pêcheur, une pièce qui parvint pour moi, contre toute attente, à en raviver l'actualité. Le classicisme implacable, l'histoire de Perceval, vaut largement pour moi celle de Phèdre. La publication posthume en 2014 d'un roman inédit de Gracq, Les Terres du Couchant, texte incroyablement abouti pour une œuvre inédite et qui rappelle étrangement la constitution de la communauté de l'anneau dans le premier tome du livre de Tolkien, laisse songeur sur ce qu'aurait pu être l'histoire des littérature de l'imaginaire, si Gracq avait donné à son livre, abandonné un an avant l'apparition du Seigneur des Anneaux, l'ampleur de celui-ci, et s'il avait accompagné ses personnages jusqu'à sa vision personnelle du Mordor. À moins que celle-ci soit à rechercher dans le dernier roman de Gracq, dans les Ardennes mécanisées de son dernier roman, Un balcon en forêt. Peut-être ne peut-on plus tout simplement écrire de chefs-d'œuvre de la littérature universelle quand on a perdu la drôle de guerre.